Mira, ahí va Alberto, ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte final. Como una moto,
Nibali, 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 gran dato.
Prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Metri. Dietro si voltano, dietro si voltano.
Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas. Mais Lens, sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief by De Sart 13. On se retrouve aujourd'hui pour le premier des deux épisodes de fin de saison où on débrief tout simplement nos OTW. Alors qu'est-ce qu'un OTW ? C'est nos one to watch que nous avions sélectionnés en début d'année lors de nos previews des différentes équipes. Et pour débriefer, bien sûr, des coureurs que nous avons sélectionnés un peu plus tôt dans l'année et voir à quel point on a été mauvais ou au contraire très bon, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va très bien. C'est un des meilleurs moments de l'année où on peut se foutre de la gueule de l'un et l'autre. Hein, très heureux. Un des épisodes que je préfère à faire dans l'année. Et bon, on a eu le parcours du tour cette année et on a des mouvements sur le mercato inattendus et rigolos qui se passent. Donc, c'est une bonne journée.
Ouais, tu l'as très bien dit, c'est un peu le moment où on peut se moquer de chacun par rapport au choix qu'on a fait en début d'année. Et c'est sûr qu'en préparant cet épisode, je me suis dit « Putain, pourquoi j'ai choisi telle personne et pas telle personne ?» C'est sûr qu'avec du recul et sur ce que maintenant qu'on sait la fin de l'histoire, c'est toujours à ce moment-là que tu te dis « Ah, j'aurais dû faire les choses différemment. »
Oui.
Mais bref, du coup, deux épisodes. On commence par la Trek. La Trek de Mats Pedersen qui a sorti une saison XXL. Et pour la Trek, qui as-tu choisi, Guillaume ?
J'avais choisi Thibaut Nice. J'avais évoqué en début d'année sa potentielle petite pointe de vitesse. Et pour une première année chez les pros, il s'en sort très très bien. Il a obtenu de beaux résultats sur des profils justement punchy, comme sa deuxième place sur l'étape 1 du Tour de Romandie et sa victoire sur l'étape 2 du Tour de Norvège, où il a d'ailleurs ramené le maillot de sprinter. Donc c'est prometteur, il va bientôt fêter ses 21 ans. Donc franchement, pour le coup, j'étais content de mon choix, il a bien marché, et on a un futur belge qui devrait pouvoir jouer les premiers rôles sur de très belles courses.
Non, clairement, c'est un coureur qui monte en puissance. Il avait remporté un peu à surprise le titre de champion d'Europe U23 lors de sa première année en 2021. Et il se montre comme un très bon routier. Là, il est parti du coup sur la saison de cyclocross où il a remporté la manche de Coupe du Monde à Waterloo. À l'image de son père, très très bon sur le cyclocross, lui, au contraire de son père, aura une très belle carrière à n'en pas douter sur la route. Et on a hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. C'est un jeune qui monte en puissance, donc très intéressant ensuite. Enfin, un très bon choix. Il a été validé cette saison.
Ça commence bien.
De mon côté, j'avais pris Quinn Simons. Il avait commencé sa saison d'une manière très rassurante, avec une belle victoire sur la Volta San Juan où il avait fait le kilomètre. Il avait été souvent à l'attaque avec Remco sur cette épreuve. Il avait été aussi pas mal à l'attaque sur les Stradé et notamment il avait remporté les championnats des États-Unis un peu plus tard dans la saison. Et puis c'est tout. Il a été marqué par des soucis de santé et de la méforme. Peu de jours de course, peu d'éclaircies dans sa saison et tout simplement direction 2024. On s'attendait à ce qu'il fasse quand même beaucoup mieux, notamment qu'il enchaîne un peu les victoires et qu'il en a remporté que deux cette saison. On s'attendait aussi à ce qu'il fasse de très belles Flandriennes parce que c'était quasiment son objectif cette saison. Il les a même pas fait, je crois, de mémoire. Et tout simplement, one to watch non validé.
Ça commence bien pour Luca.
On passe du côté du UAE. Avec de mon côté, le choix de Jay Wine. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on s'est quand même bien foutu de sa gueule aussi de cette saison. Il avait commencé très fort l'année lui aussi où il avait remporté le championnat d'Australie du contre-la-montre et le Santos Tour Down Under. Et on avait commencé à s'enflammer par son talent et dans sa nouvelle équipe. On s'était dit allez, pourquoi pas jouer un rôle de leader sur un grand tour, pourquoi pas même le Giro, la Volta. Il a été marqué par une blessure au genou, inexistant sur le Giro. Il a pas mal chuté, notamment sur la Volta, qu'il a dû abandonner, si je dis pas de bêtises. Il a certes 28 ans l'année prochaine, mais il est encore en contrat chez UAE jusqu'en 2027. Il a le temps pour progresser. malheureusement, il n'aura pas l'étoffe pour être un leader dans son équipe. Et même en tant qu'équipier, au final, vu qu'il chute quand même assez régulièrement, tu sais pas forcément si tu as envie de le mettre dans ton 8 qui fait, par exemple, le Tour de France, parce que tu as besoin de coureurs qui sont ultra réguliers. Et lui, il est irrégulier. Et en plus de ça, il est souvent blessé. Donc, il a un potentiel assez fou, mais il n'a pas encore la carrure du cycliste et l'habilité d'un cycliste. Et c'est ce qui manque pour lui, pour faire un excellent coureur. Et encore une fois, OTW non validé pour cette année.
Ouais, mais bon, celui-ci, c'est une mauvaise surprise. Tu n'y peux rien, Luca. Moi, de mon côté, j'ai choisi Juan Ayuso. Alors... J'avais évoqué le fait qu'il brillerait, en tout cas qu'il bataillerait pour la victoire finale sur la Vuelta. Alors on va dire que c'est le meilleur coureur derrière Jumbo du coup. C'est un peu particulier, voilà. J'espère également qu'il ramène des victoires d'étape. Mais au vu de cette Vuelta un peu particulière, je lui en veux pas. Il ramène le maillot blanc à l'autre consolation. Seulement 2 victoires d'étape cette saison en Suisse. Saison poussive qui a été compliquée par des blessures en début de saison. Bon, il rebondira en 2024, c'est sûr, hein, mais ouais, saison poussive, je peux pas dire saison validée vis-à-vis de mes attentes, mais voilà, il a une saison très poussive et pas aidé par les blessures, donc on espère qu'il pourra mieux s'exprimer dès l'année prochaine.
Non, c'est un peu dommage parce que comme tu l'as dit, il a commencé tard la saison à cause des certaines blessures, mais il a fait quand même une très bonne saison, il a recommencé quasiment avec une victoire sur le Tour de Romandie. Il a remporté 2 étapes sur le Tour de Suisse, notamment le chrono où il a battu Remco, donc déjà performance XXL. Et après, la Vuelta, il a été un peu le meilleur des autres, c'est-à-dire le meilleur des coureurs autres de la Jumbo. Mais c'est sûr que ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. On va parler maintenant de Total. Saison très poussive de leur part. Saison même très compliquée. Enfin, on va pas s'étaler globalement sur tout ce qu'a fait Total cette année. Merci Sagan pour les travaux, même si t'as été transparent.
Ouais, travaux, chef des travaux fini.
Et du coup, qui as-tu choisi toi de ton côté pour Total? Tu peux nous le rappeler?
Bah, tu vois, c'est un peu comme Sagan, comme tu viens de dire. C'est un peu un petit goût d'inachevé. Donc moi, j'avais choisi Mathieu Burgodeau. Franchement, je sais pas trop quoi en penser parce que j'attendais des victoires et ce fut pas le cas. Mais parce qu'il y a un mais. Ça s'est clairement vu qu'il avait des bonnes jambes cette saison, mais trop de seconde place, notamment sur l'étape du Tour de France et sur la Bretagne classique. C'est dommage, du coup, moi je suis un petit peu déçu, parce que vraiment, il méritait de lever les bras cette saison, mais des fois, mériter ne suffit pas. Enfin, cette saison lui servira pour peut-être enfin conclure en 2024 à nouveau. On se rappelle qu'il avait quand même gagné une étape sur Paris-Nice, mais il y a quand même de beaux espoirs placés en lui chez Total, et voilà quoi, il pourrait se faire un beau petit palmarès, mais il manque ce petit truc et j'espère vraiment qu'il l'aura ce petit truc l'an prochain parce que, comme dit, il a les jambes. Il avait l'habitude d'être gêné par les blessures, cette année il s'en est à peu près sorti, sauf qu'il s'est blessé là en fin de saison. Voilà, donc en termes de points, c'est une de ses meilleures saisons, mais il n'y a pas de victoire, donc ça me laisse un goût d'inachevé. Donc pas validé pour ma part en tout cas.
De mon côté, j'avais choisi Anthony Turgis parce qu'il était tout simplement entouré du clan Sagan et d'un Van Ressel qui montait un peu en puissance. Je vais pas trop m'étaler sur sa saison parce que pour moi elle est très décevante. C'est sûrement sa pire saison depuis très longtemps, moins acteur et moins malchanceux, mais il a payé moins les jambes du coup. Et un peu comme l'équipe de manière globale, sa dernière victoire remonte à 2019, il a 30 ans l'année prochaine. Est-ce qu'on ne se tourne pas vers un coureur très talentueux, marqué par la malchance et qui n'aura finalement pas marqué sa période d'activité de son empreinte? Ça en a tout l'air, on n'espère pas, mais il va falloir qu'il passe, qu'il cherche une grosse victoire et tout simplement une victoire qui lui manque depuis 2019, quoi. Donc saison difficile, saison poussive et OTW non validé pour moi.
Ouais, tu as raison. Turgis, j'ai l'impression que je crois que c'est le cas. Depuis qu'on a démarré ce podcast, on en parle. Et ça commence à durer un petit peu et il a les gens pour plus, mais c'est comme, ça ne se fait pas, quoi. Il manque ce résultat de prestige.
On passe à une autre équipe française?
Ouais, alors Lucas, je sais que t'as beaucoup de choses à dire sur l'équipe là, mais on va se focus vraiment sur nos one-to-watch, d'accord? Si tu me permets, je vais commencer. Alors moi, j'avais choisi Romain Grégoire. Bon, clairement, c'est l'éclaircie pour la FDJ cette saison. C'est vraiment le jeune coureur qui a confirmé avec de très bons résultats. Il a commencé sa saison fort parce que quand même, pour faire 8e sur l'Estrade, franchement, c'est propre. Surtout que c'est une course qui demande un sens tactique, donc vraiment très propre. Et après, il nous a fait une masterclass aux 4 jours de Dunkerque avec le général et une victoire d'étape. Et après, bah, écoute, il remporte le Tour du Mimousin avec 2 victoires d'étape. Et il est passé vraiment très proche de la victoire d'étape sur la Vuelta. Donc bon, forcément pour moi, Romain Grégoire, j'avais annoncé, je suis pas le seul, hein, j'ai pas inventé, mais j'avais évoqué le fait que ce serait pas un coureur de Grand Tour, de classement général de Grand Tour. Je me maintiens à dire ça. Et au vu de ses victoires d'étape ou de ses victoires au général sur des courses de 4-5 jours, je pense vraiment qu'il aura un profil, ça sera un mec qui pourra tourner à 10-15 victoires par saison. Et bon, pour moi, c'est une saison plutôt réussie. Et maintenant, c'est vrai qu'avec une telle saison, on va en attendre encore plus pour l'année prochaine.
De mon côté, j'ai fait le choix de partir sur l'autre pépite de la Groupama FDJ, Lenny Martinez. Belle victoire lors de la CIC Mont Ventoux. Quelques jours avec le maillot rouge de leader sur la Volta. Il progresse bien, il est souvent aux avant-postes. J'en attendais quand même plus. Notamment sur la Volta que j'ai trouvé quand même presque un peu en dessous de ce qu'il était capable de faire. Il va devoir encore passer un cap l'année prochaine et il doit passer un cap sur cette troisième saison chez les pros après un an dans la réserve et un an au sein du World Tour. Time to shine, surtout quand on voit la précocité de certains autres grands du milieu qu'on va sûrement évoquer après comme à l'image d'un Max Poole ou d'un Oscar Hanley ou dans un futur épisode de Sian Hughes-Debrooks. C'est des mecs qui ont fait pour moi une saison mieux que la sienne et qui sont pourtant de la même génération. Et comme dit, j'en attendais quand même plus de la part de Martinez cette année. Il est capable de mieux et on va dire il faut qu'il passe encore un cap assez rapidement parce qu'il y a encore une fois d'autres pépites qui poussent derrière lui. Pour une première saison World Tour, il a fait le taf. Il a fait le taf, c'était un très bon apprentissage.
Un peu plus mesuré que l'avant-podcast, mais je respecte.
On passe désormais du côté d'Ineos. Ou toi, je sais que tu as sélectionné presque un survivant.
Ah oui. Bah, enfin, là pour ce coup, je vais pas rigoler parce que mon one to watch n'est pas réussi. Enfin, en tout cas, c'est pas validé. Mais j'avais choisi Egan Bernal. Alors moi, je croyais à son potentiel retour. C'est vrai qu'il se tue à l'entraînement, mais bon, voilà, il n'aurait été qu'un simple coéquipier très discret tout au long de la saison. Pas de gros résultats à part une petite 7e place sur une étape de la Vuelta parce qu'il était en échappée. Alors je vais pas dire totalement déçu parce qu'il revient vraiment de loin, mais là où c'est un petit peu difficile, c'est un coureur qui était très offensif, qui avait du panache et il n'est clairement pas à sa place et ça fait mal au cœur. Mais d'un autre côté, il revient tellement de loin que ça fait plaisir de le revoir. Je n'attendrai rien de Bernal pour la fin de sa carrière, en tout cas pas pour la saison qui vient. Je veux juste qu'il continue sa progression. C'est comme un retour à zéro pour lui. Et voilà, je me suis peut-être un peu enflammé en voyant les sorties qui s'envoyaient en début de saison sous les tempêtes, sous les déluges en Colombie, mais bref. Tant pis, mais en tout cas, il est sur un vélo et c'est le plus important.
De mon côté, j'avais choisi Carlos Rodriguez, 5e du Tour de France, malgré une lourde chute sur l'étape vosgienne où on se rappelle qu'il avait la pommette ouverte. Rien qu'avec ça, pour le coureur de 22 ans, on peut dire que c'était une saison réussie. Parce qu'un top 5 sur un Tour de France, c'est quand même bien, bien costaud. Et cette saison a aussi été importante pour la suite de sa carrière, où il se positionne finalement avec un contrat à long terme avec Ineos, alors qu'il devait potentiellement partir chez Movistar. Il ira jusqu'en 2027, il y a beaucoup de leaders qui sont partis d'Ineos, donc au final il va être leader unique sur les courses par étapes, donc c'est très bien pour lui. Et on verra si l'année prochaine il choisit de tout miser sur la Volta où il devrait y avoir peut-être un moins gros plateau ou encore une tentative de podium sur le Tour de France. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il avait de réelles appétences sur les classiques italiennes de fin de saison où il est déjà à 2 top 10 en 2 éditions sur le Tour de Lombardie. Donc pourquoi pas, ça peut devenir aussi un classic man, ça serait pas surprenant aussi de le voir jouer le top 10, voire le podium sur un Liège-Bastogne-Liège l'année prochaine, s'il décide de le faire. On enchaîne maintenant avec une autre équipe française. On va passer sur la formation nordiste Cofidis, où on avait sélectionné quasiment le même type de profil en termes de caractéristiques, mais qui ont eu quand même deux... Ouais, je vais pas m'étaler là-dessus, vas-y, présente tout ton coureur.
Ouais, Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu l'image de Turgis. Il y a des coureurs dont on parle depuis maintenant 3 ans et qui, à chaque fois, ont des éclaircies, mais en fait, non, pas tant que ça. Alors moi, c'est Brian Cocard. Alors bon, par contre, en vrai, petite masterclass, je me souviens. J'avais annoncé dans le One to Watch que j'aimerais le voir gagner en World Tour cette saison au moins une fois. Qu'est-ce qui s'est passé dès le mois de janvier? Il remporte une étape sur le Santos Tour Down Under, donc vraiment très solide en plus sa victoire d'étape. Et je me dis, ça y est, là on va avoir une saison où le coq, il va faire du sale. Ou enfin bref, je m'en porte un peu. Mais malheureusement, le suite de sa saison, ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Il est à sa place, quoi. Il a quelques victoires en France, mais j'espérais un poil plus. En fait, il y a des coureurs, le train il passe quelques fois pour remporter une étape sur le Tour, et lui, malheureusement, le train il passe pas très souvent et... Et c'est encore pas pour cette année, donc oui, il arrive à faire des 4e, 5e places, mais c'est le genre de coureur qui, typiquement, pourrait prendre aussi une échappée et parfois aller chercher sa victoire d'étape, la victoire de sa carrière, et c'est toujours pas le cas, et c'est dommage. Mais c'est le genre de coureur, pour moi, qui pourrait espérer un petit peu plus.
De mon côté, j'ai choisi le bon Axel Zinglé, qui a été ultra régulier tout au long de la saison. Ça a été l'un des meilleurs coureurs français sur les courses d'un jour et sur les pavés. Un an trop tôt, je pense, pour performer vraiment à son juste talent et utiliser son plein potentiel sur les classiques flandriennes, les belles classiques flamandes du début de saison. Mais on devrait le voir passer un cap l'an prochain parce que comme il a pu le faire sur le Tour du Benelux, j'ai oublié son nouveau nom, mais le René 8 Tours, il avait montré qu'il était l'un des hommes forts sur l'étape pavée. Je pense que pour cette 3e saison route l'année prochaine, on devrait le voir à l'avant sur les routes mondiales et pourquoi pas décrocher une belle étape sur le Tour. C'est un coureur qui est plein de talent et qui doit encore se découvrir vraiment ce qu'il affectionne le plus sur la partie route. Et ça prévoit que des belles choses. On en a parlé juste avant des pépites britanniques de la DSM Only et Pool. On les avait sélectionnés tous les deux pour l'épisode de la preview de la DSM. Vas-y, je te laisse commencer avec Honley, si je dis pas de bêtises.
C'est bien ça, Oscar Honley. Saison d'apprentissage poussive. Je dis poussive dans le sens où il n'a pas eu de coup d'éclat, mais en tout cas, il a eu une belle saison d'apprentissage. Des jolies places d'honneur et une deuxième place au général de l'Alpes-Isère Tour. Donc clairement très prometteur. Il fait partie de l'équipe qui remporte aussi le chrono par équipe sur la Vuelta. Mais pas de chance, il abandonne le lendemain sur chute. C'est vrai que sur cette saison, c'est de l'apprentissage, mais un petit goût d'inachevé. Mais ça pourrait être clairement un Britannique qui, avec 2-3 ans de bouteille, pourrait commencer à aller chercher de sérieux top 5 sur de très belles courses, je pense.
Meilleure saison de sa part que pour celle de Lenny Martinez. Bref, Max Poul, qui est quand même 4e du Tour de Romandie, avec les meilleurs grimpeurs mondiaux sur le Dauphiné, souvent à l'attaque sur la Volta. Très bonne première saison en World Tour, classe 2003 comme Martinez, et pourtant le Britannique semble un cran au-dessus et plus prometteur. Bref, pas là pour faire de débat entre les deux, mais c'est un futur vainqueur de grand tour en puissance. Il a encore 4 saisons au sein de l'équipe DSM, avoir sa régularité, mais il semble aussi avoir de bonnes jambes sur les chronos. Ça peut être l'une des sensations pour l'an prochain. Une équipe qui fait l'actualité aujourd'hui avec la signature de Nairo Quintana, mais on n'est pas là aujourd'hui pour s'attarder sur ce mercato. On va parler de la Movistar. De mon côté, j'avais sélectionné Henrik Mas. Ça a été une déception terrible de le voir chuter sur la première étape du Tour avec Carapaz sur les routes en direction de Bilbao. Il a été régulier tout au long de l'année, a enchaîné les top 10 sur la Volta. Il loupe le top 5 de très peu, où il finit 6e juste derrière Mikel Landa. Il aura 29 ans l'année prochaine. Il va peut-être falloir miser sur lui pour le Giro, en effet, parce que tout simplement, il a fini 3 fois 2e de la Volta. Le Tour semble être trop dur pour rivaliser face à des Pogacar et des Vingegaard, même par rapport à des Roglic. Donc je me dis que pourquoi pas, on pourrait le voir sur le Giro. Pour jouer un podium, la victoire, qui sait. Et surtout parce qu'il n'a encore jamais pris le départ du Giro. Et je me dis, ça peut être une année pour lui de découvrir de nouvelles choses et de repartir de zéro.
Ouais, après Henrik Mas, perso, alors il y a quelques années, je l'aimais pas trop, c'était un suceur de roue, on va pas se mentir. Et là, depuis 2 ans, il a pris la confiance, l'Espagnol. Hein, et il met des petites pralines, il est offensif, donc il commence à me plaire maintenant. Donc bon, c'était comme toi, difficile de voir quitter le Tour de France. C'était déception, quoi. Alors de mon côté, j'avais choisi Matteo Jorgensen. Je me souviens que j'espérais de lui qu'il passe enfin sa palier. Et je pense que on peut valider ce One to Watch parce qu'il a clairement passé un palier cette saison. Il a commencé très fort en remportant le Tour d'Oman. Et surtout, moi je ne l'attendais pas forcément là, mais il a fait des classiques flandriennes et il fait 4e de l'E3 Sasso Classique et 9e du Tour des Flandres, donc très très propre. Et après, bah, il est monté en puissance, on le voit faire 2e du Tour de Romandie. Mais clairement, on voit qu'il a pris de l'importance chez Movistar. Et par contre, là, pour 2024, je vais être un peu plus dur. Ce coup-ci, il va falloir vraiment confirmer, continuer à remporter de belles victoires. Et après, voilà, il se pose toujours la question sur le Grand Tour, est-ce qu'il est capable de jouer un classement général ? Moi, je pense que c'est un peu limite. Ça pourrait faire un très bon baroudeur, en revanche. Donc, saison plein de promesses encore pour l'an prochain. Il continue sa progression. Rappelons qu'il c'est un classe 99. Il n'a seulement que 24 ans, donc ça va être sans doute un des hommes forts de la Movistar, en espérant qu'il ne fasse pas des choix tactiques de merde, hein, n'est-ce pas ?
T'es si mignon, Guillaume, t'es si mignon, parce que tu n'as donc rien suivi au mercato, puisque Matteo Jorgensen ne continue absolument pas avec Movistar. L'année prochaine, il sera du côté de la Jumbo pour 3 saisons.
Merde ! J'ai loupé cette info où, moi ? Mais c'est incroyable que j'ai loupé ça. Pardon, je suis désolé, je m'excuse. Bah du coup l'an prochain il devrait faire podium sur la Vuelta. Hein.
Non, il a été très surprenant en tout cas sur la partie flandrienne parce qu'on s'y attendait absolument pas. Il a passé un vrai cap cette année où il a été vraiment monstrueux, même en souvent l'attaque sur le tour. Et c'est dommage, on va dire, ce choix de carrière de partir du côté de Jumbo. Il sera juste un équipier de plus dans les multiples stars que compose déjà l'équipe, aussi bien maintenant sur la partie flandrienne que sur la partie plus course par étape. Donc c'est sûr que c'est un peu un crève-cœur de voir un talent partir là-bas pour au final jouer les seconds couteaux.
Je suis dépité là. Il n'y aura pas de montage par-dessus, on laissera cette disaster class de ma part, mais je sais pas comment j'ai fait pour louper cette info, mais alors là, clairement, je suis tout aussi déçu que toi. Vas-y, tant pis, vas-y, va prendre ton billet chez Jumbo, vas-y, va, c'est bon, allez.
Allez, je te laisse te rattraper en parlant d'AG2R et de parler du petit crack que tu avais sélectionné.
Ouais, donc moi j'avais choisi Clément Berthet, j'attendais de lui qu'il confirme son potentiel cette saison, qu'on oublie les chutes et qu'il rentre fréquemment dans les top 10. Donc bon, oublier les chutes malheureusement cette saison, il a encore eu le droit à quelques chutes. Mais écoute, il nous a fait une saison propre, alors n'oublions pas qu'il vient du VTT, il monte en puissance, il apprend. C'est pareil, l'an prochain je pense que je serai un peu plus sévère avec lui, mais il a fait une saison propre, 6e sur les classiques, franc-comtoises, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas non plus de folie. Bon, t'as dit pépite, Luca. C'est vrai, j'en attendais peut-être un petit peu plus, mais c'est une saison très propre. Il fait une 5e place aussi sur une étape du Tour de France. Donc, ce coup-ci, on va dire que ça y est, il a acquis l'expérience dont il avait besoin pour la route. Et par contre, l'an prochain, il va devoir passer un palier. J'avais pas été trop demandeur de résultats cette saison, à part des top 10. Il y en a quelques-uns. J'en espère peut-être un peu plus. Donc, je vais peut-être pas valider non plus ce One to Watch.
De mon côté, encore une disaster class, j'avais choisi le bon vieux Stan De Wolf. C'était un pari, il avait montré de belles choses en 2022, enfin de choses assez intéressantes. On pensait qu'il avait potentiellement la possibilité de passer un nouveau cap et de jouer un rôle de leader dans cette équipe, mais ça n'a malheureusement pas été le cas et ça n'a pas été du tout le cas. Mis à part certaines tentatives lointaines, il a été inexistant sur le tour par exemple, saison a presque oublié. Désolé Stan. Et on va terminer cet épisode en parlant d'Astana, qui a été une équipe qui a été marquée par de grosses difficultés, aussi bien sportives que financières, tout au long de cette année 2023, mais qui est en train de se reconstruire une très belle équipe pour 2024 avec de coureurs très intéressants. Il y a un gros turnover et surtout, oui, il y a comme dit, il y a de belles choses qui peuvent, pourquoi pas, pointer leur bout de leur nez. De mon côté, j'avais fait le choix de partir sur Mark Cavendish, qui était pour moi, ça, je me suis dit, bah, ça, du coup, pour cette dernière année, je l'avais pris un peu en mode dédicace, sachant que je ne l'affectionne pas non plus tellement, je ne le porte pas dans mon cœur comme toi, mais ça a été quand même une bonne saison de sa part, dans le sens où il a gagné la dernière étape à Rome du Giro, et il a été malheureusement malchanceux sur le Tour de France, où rappelons-le, il a dû abandonner sur chute, sur fracture de la clavicule. Il était à deux doigts de valider totalement sa saison à Bordeaux en terminant deuxième, mais du coup, comme il doit le penser, c'est one to watch à moitié validé, dans le sens où même lui, il repart pour une last dance l'année prochaine et une dernière saison. Et normalement, il devrait être bien entouré, parce qu'on va rapidement parler aussi du mercato, le temps que Guillaume se souvienne de qui il avait sélectionné, et notamment avec l'arrivée de coureurs comme Rudiger Selig, Michael Morkov ou Davide Ballerini, ou encore Max Kanter, qui vont au bon Cavendish un train assez incroyable.
Ouais, bah écoute, je veux pas m'étaler plus que ça, mais alors là, quand j'ai vu le one to watch que j'ai choisi, je me rappelle maintenant à quel point j'étais paumé au moment de faire la preview d'Astana l'an dernier. Pardon, du coup je pars en fou rire tout seul. Alors moi j'avais choisi Fedorov. Bah, il avait quelques petits résultats, mais pas énormes non plus. Mais je m'étais dit que s'il allait chercher des belles petites places par-ci par-là, il allait pouvoir faire son trou du côté d'Astana. Bah écoute, il a pu être aligné sur pas mal de courses. Hein. Il a même fait le Tour de France. Voilà, j'étais désespéré en début de saison en faisant cette preview. On peut noter une 26e place sur Paris-Roubaix. Donc bon, une troisième saison d'apprentissage pour le Kazakh, qui est quand même jeune. Hein. C'est un classe 2000. Donc bon, on va lui laisser prendre de l'expérience et on verra ce que ça donne plus tard. Mais j'avais complètement oublié mon toi du côté d'Astana. Je suis désolé. Hein. Voilà, il y a des équipes certaines années qui ne nous inspirent pas. Et c'est vrai qu'Astana, comme l'a dit Luca, ils ont un peu une reconstruction. Et on espère qu'elle retrouvera le prestige qu'elle avait il y a quelques années en arrière.
Non, comme dit pour Fedorov, il sortait d'une bonne saison 2022 où il avait remporté avec la manière les championnats du monde du 23. Donc c'était pas non plus quelqu'un qui sortait de nulle part. Mais c'est sûr qu'on s'attendait à plus, en tout cas pour cette saison 2023. Malheureusement, on le sait très bien, no one to watch, des fois c'est des paris. Ça en a été un, c'était un pari loupé, mais ça reste un pari. Voilà, c'est tout en tout cas à l'image de ce qu'on a pu faire en début d'année. C'est tout pour ce premier épisode du débrief de No One to Watch. On se retrouve très vite pour le second épisode. Et bah, merci de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao, ciao.
Ciao.